Il est 8h.
La majorité des patients intubés ont moins de 40 ans. Aujourd'hui, je reste chez moi pour sauver ma peau. J'ai peur, vraiment. Si j'ai besoin d'être hospitalisé, il n'y a plus de lit en soins intensifs.
Situation catastrophique au Brésil, où les mutants du virus se multiplient et font des ravages, des variants moins sensibles aux vaccins qui risquent de faire repartir l'épidémie aussi en Europe. Nous sommes allés voir comment les frontières et l'isolement des voyageurs étaient respectés. Dans ce journal, ces entreprises où il fait bon télétravailler avec une prime de quelques dizaines d'euros pour l'électricité et l'abonnement Internet. Et puis, le PSG qui s'avance prudemment vers son quart de finale retour de Ligue des Champions. Mais la pression ce soir sera bien sur les joueurs du Bayern. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Derrière la campagne de vaccination, la campagne électorale, régionale, présidentielle, on en parle avec mon invité Guillaume Pelletier, vice-président délégué des Républicains et député du Loir-et-Cher. Rendez-vous à 8h15.
Juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Vous entendez parler quotidiennement du variant britannique, du sud-africain, du brésilien, mais on devrait dire les variants brésiliens, car ce sont bien des dizaines de mutants du virus qui apparaissent au rythme effréné des contaminations, des souches pour l'instant peu présentes en France, on va le voir, mais l'équilibre que nous connaissons aujourd'hui peut être balayé très vite, à l'image de ce que l'on observe aujourd'hui au Brésil.
Et c'est là qu'on vous retrouve, Marie Nodacher. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à São Paulo. Et chez vous, les soignants comme les scientifiques brésiliens sont totalement dépassés.
Oui, la situation est devenue totalement ingérable avec ces variants très difficiles à cerner. Les cimetières débordés, les enterrements nuit et jour, le nombre de morts qui augmente. Et pourtant, il est de plus en plus difficile de convaincre les gens de rester confinés, comme l'explique le docteur Vasconcelos, infectiologue à São Paulo.
Quand vous entendez 2000 morts, 3000 morts, 4000 morts par jour, les gens ont fini par s'habituer à ce décompte macabre. Je pense même que si une étude confirme que le variant est plus mortel, ça ne leur fait rien. Les gens sont anesthésiés, vous comprenez ?
Anesthésiés et complètement perdus, car il n'existe aucune politique commune entre le président Bolsonaro, les gouverneurs et les maires. São Paulo vient de rouvrir les écoles, une décision incompréhensible pour beaucoup de parents au pire moment de la pandémie. C'est ce que pense ce père de famille en télétravail depuis un an avec ses trois enfants.
C'est irresponsable de les envoyer à l'école pour le moment. La majorité des patients intubés ont moins de 40 ans. Avant, on se disait, bon, mieux vaut rester à la maison. Aujourd'hui, je reste chez moi pour sauver ma peau. J'ai peur, vraiment. Si j'ai besoin d'être hospitalisé, il n'y a plus de lit en soins intensifs. Il faut rester calme et être très patient.
Environ 10% des 212 millions de Brésiliens ont reçu au moins une dose de vaccin. Qu'il soit efficace ou non, contre les variants, la priorité reste d'accélérer la vaccination et d'appliquer les gestes barrières.
Marie Nodacher en ligne de São Paulo pour Europe 1.
Aujourd'hui, le variant brésilien ne représente que 0,5% des contaminations en France. On pourrait se sentir protégé, loin de São Paulo dont nous parlions, et avec la vaccination qui accélère.
Oui, sauf que l'exemple du Chili doit nous alerter. Sa population est trois fois plus vaccinée que la nôtre. Et pourtant, les contaminations explosent ces jours-ci, faute d'avoir fermé les frontières. Et pour une autre raison, le variant brésilien est moins sensible aux vaccins dont on dispose. D'où cette question, faut-il craindre une arrivée massive de ces mutants via les voyageurs qui arrivent en France? Tous les jours, des vols en provenance du Brésil atterrissent à Roissy.
Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
Vous êtes rendu hier à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Vous avez pu rencontrer des voyageurs. Alors Johanna, y a-t-il des dispositions différentes pour ceux qui viennent de Rio par exemple ?
Eh bien non, ils doivent suivre le même protocole que les autres voyageurs venant de l'étranger. Présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, déclarer sur l'honneur qu'ils n'ont pas de symptômes et s'engager à s'isoler 7 jours. Le protocole est légèrement renforcé depuis 2 jours avec un test antigénique à l'arrivée, comme pour d'autres pays jugés à risque. Les voyageurs testés positifs doivent se confiner 10 jours, comme l'explique Cécile Hardeman, commissaire à la police aux frontières.
Il va falloir qu'ils s'isolent, soit à une adresse qu'ils déclarent sur le territoire, soit dans une chambre d'hôtel à leur charge. Ça repose évidemment sur leur bonne foi, mais certains services de police peuvent éventuellement contrôler la présence de la personne au lieu de domicile qu'elle déclare.
Mais pour les voyageurs habitués aux allers-retours Paris-Rio, les déclarations sur l'honneur ne suffisent pas. Il faudrait imposer l'isolement.
Il n'y a personne qui respecte le confinement. C'est très inquiétant.
On n'a qu'à prendre l'exemple de l'Angleterre. Là-bas, c'est obligé. Le gouvernement les appelle tous les jours pendant son séjour en confinement. confinement.
Et ces voyageurs craignent que la seule solution pour protéger la France du variant brésilien soit de fermer complètement les frontières avec le Brésil.
Merci Johanna Chabas. On comprend mieux ce matin la crainte sur la propagation et la dangerosité de ces variants brésiliens. Et dans le même temps, on s'interroge sur notre propre retour à une vie plus normale.
Oui, dans les 20 départements où des mesures restrictives avaient été prises dès le 20 mars, on observe déjà une baisse des indicateurs. Alors, au niveau national, quels seront les effets de ce nouveau confinement ? Victor Delande, concrètement, quand va-t-on savoir si ça va dans le bon sens ?
Alors on devrait en savoir beaucoup plus à la fin de cette semaine, car pour observer une stabilisation des indicateurs après la mise en place d'un confinement, il faut généralement 2 semaines. Et l'indicateur qui sera regardé avec beaucoup d'attention, c'est le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes que contamine un seul malade. Quand il est au-dessus de 1, l'épidémie continue d'augmenter. Avec les mesures prises depuis 10 jours, plus les écoles fermées, il pourrait redescendre aux alentours de 0,7. Dans cette projection optimiste, l'épidémie reculerait rapidement, comme l'explique l'épidémiologiste Antoine Flao.
Si ce taux est autour de 0,7, c'est des chiffres que l'on a vus par exemple au Portugal récemment, alors on peut espérer une diminution par 2 du nombre de nouvelles contaminations toutes les semaines. C'est-à-dire qu'il faudra 3 semaines supplémentaires pour mener les nouvelles contaminations de 40 000 à 5 000 cas par jour.
Dans ce scénario, la France se retrouverait donc avec 5 000 nouveaux cas par jour autour du 10 mai, un niveau raisonnable pour bien remonter les chaînes de contamination. En revanche, si le confinement est moins efficace et que le taux de reproduction se situe à 0,9 à la fin de cette semaine, il ne faudra plus 3 semaines, mais 3 mois pour revenir à ces 5 000 contaminations quotidiennes.
Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1, et dans cette perspective que vous nous donnez, on retient aussi ce nouveau changement apparent, nouvel épisode feuilleton du calendrier des élections régionales et départementales. On pensait hier soir et encore ce matin, après consultation des maires, que le gouvernement restait sur les dates prévues, mais il y a quelques minutes à peine, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, déclare que le Premier ministre devrait proposer de décaler le scrutin d'une semaine fin juin.
Et puis, pour nous redonner un peu d'espoir, regardons de l'autre côté de la Manche. Les Anglais ont humé hier soir comme un parfum de printemps.
La réouverture des pubs célébrée ici avec force à Londres, elle était prévue de longue date. Le calendrier a été respecté, tout comme d'ailleurs celui de la vaccination. 60% des adultes en Angleterre ont reçu une première dose de vaccin.
Pas de terrasse pour le moment en France, bon vous le savez. Et toujours le télétravail, recommandé partout où c'est possible.
Oui, alors au fait, qu'en est-il de la prise en charge par les entreprises, des frais que supportent les salariés contraints de travailler chez eux? La plupart du temps, quand il y a accord, eh bien, les accords de télétravail prévoient des systèmes de défraiement. Olivier Samin.
Il y a les entreprises pingres qui disent « à quoi bon vous indemniser puisque le télétravail s'appuie sur le volontariat ?» Sauf qu'en ce moment, l'argument a du mal à tenir. Et il y a les entreprises plus généreuses qui ont conclu des accords récents prévoyant la plupart du temps une somme forfaitaire exonérée de cotisations. Chez l'assureur Allianz, par exemple, c'est entre 10 et 50 euros par mois. Chez Accenture, c'est un peu moins, 35 euros pour ceux qui travaillent chez eux au moins 4 jours par semaine. 35 euros parce que le chauffage, l'électricité, l'abonnement Internet sont pris en charge, oui, mais pas les cartes touche d'encre, ni les ramettes de papier, protection de la planète oblige. Pas mal, reconnaît Jérôme Chemin, secrétaire général adjoint de la CFDT cadre, mais, dit-il, il faut quand même se battre dans les négociations.
Généralement, les employeurs arrivent en négociation en ne mentionnant pas le remboursement des frais dans les projets d'accord. Donc c'est quelque chose sur lequel les négociateurs doivent batailler, d'autant que c'est une revendication de plus en plus forte, puisqu'aujourd'hui le télétravail concerne toutes les populations de l'entreprise, par rapport aux accords que nous avions avant sur le télétravail qui concernaient principalement les cadres, et c'est un nombre moins important de jours de télétravail.
Ce qu'il faudra maintenant regarder, dit la CFDT cadre, c'est le partage de la valeur au vu des bénéfices que les entreprises vont pouvoir tirer de la réduction du nombre de leurs mètres carrés de bureaux.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Ils ont bataillé pendant 7 mois jusqu'à plus soif. Les 2 géants français de l'eau et des déchets vont finalement trinquer à leur mariage, ou plutôt au rachat de Suez par Veolia, dont le patron Antoine Frérot savoure sa victoire. Projet enthousiasmant, intégrité industrielle garantie, affirme-t-il ce matin dans une interview au Figaro. Cette acquisition est une bonne chose pour la planète, dit-il. Et avec cet accord, tout le monde est gagnant. Il rappelle la garantie de l'emploi en France pendant 4 ans.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant, cette nouvelle bavure policière aux États-Unis, et c'est encore à Minneapolis, moins d'un an après la mort de George Floyd. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Situation très tendue à Minneapolis aux États-Unis. La ville est sous couvre-feu, les matchs de basket de la NBA ont été annulés et un millier de soldats de la garde nationale sont déployés face à des craintes de débordement après la mort dimanche d'un jeune homme noir de 20 ans lors d'un contrôle routier.
La vidéo de la caméra piéton portée par la policière a été diffusée.
Vous entendez cette confusion et cette policière qui dit en substance qu'elle s'est trompée entre son taser qu'elle pensait utiliser et son pistolet qui vient en fait de faire feu. Et il y a le contexte, le procès du policier qui avait étouffé George Floyd il y a un an a lieu en ce moment dans cette même ville. Joe Biden a réagi. Nous savons que la colère, la douleur, la souffrance qui existe chez les personnes noires est réelle, mais cela ne justifie pas la violence ni les pillages, déclare le président américain.
8h12 sur Europe 1. Après l'enlèvement de deux religieux français dimanche en Haïti, Paris ouvre une enquête. Enquête pour enlèvement et séquestration en bande organisée.
Oui, les ravisseurs demandent 1 million d'euros de rançon, une somme colossale dans un pays, on le sait, peu familier de ce genre de kidnapping. Il y a eu plus de 1200 personnes enlevées en Haïti l'an passé. Jean-Sébastien Soldaini.
L'enlèvement est un business à Port-au-Prince, si bien qu'Arnold, réalisateur de films, évoque un commerce de gros et de détails. Comprendre, tout le monde peut être ciblé, quelle que soit la classe sociale, alors il sort de chez lui en rasant les murs.
D'abord, je ne me promène jamais. Et quand je suis obligé de sortir, où l'on conduit la voiture en regardant dans tous les rétroviseurs possibles, dès que quelqu'un s'approche, si je remarque que c'est la même voiture qu'il y a derrière moi, au cours d'un kilomètre, je change de route.
Il rappelle qu'il y a quelques jours, le fils d'une vendeuse de cacahuètes a été kidnappé. Sa maman n'avait pas les moyens de payer. L'enfant de 5 ans a été pendu. Jean-Marie Théoda, maître de conférence à l'Université d'État de Port-au-Prince, souligne que dans un pays aussi pauvre, chaque vie prend de la valeur.
En enlevant une personne, vous êtes capable de tirer au moins de quoi vivre pour la semaine, parce que ce sont des rançons qui atteignent au maximum, cela se chiffre en centaines d'euros.
La majorité de ces gangs sont constitués par de jeunes hommes de moins de 20 ans désœuvrés. Ils agissent bien souvent avec la complicité de certains policiers qui leur fournissent armes de gros calibre et protection.
Une grande soirée de football ce soir sur Europe 1. Le PSG reçoit le Bayern Munich en quart de finale retour de Ligue des Champions.
Oui, après sa victoire 3-2 à l'aller, Paris a 95% de chances de se qualifier, paraît-il. Mais Cyril de la Morinerie, on sait ce que valent parfois les statistiques.
Oui, les Parisiens devront être solidaires, défendre ensemble pour s'offrir une soirée de légende. Mais il faudra aussi être plus entreprenant. Pas question de subir autant qu'en Bavière. Le Bayern avait terminé la rencontre avec 31 tirs contre 6 pour Paris, prévient l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.
Ce n'est pas une question d'hommes, mais plutôt d'attitude collective. On doit non seulement défendre, mais aussi jouer avec la possession du ballon, défendre et attaquer. C'est ça le défi.
Le Bayern est dos au mur, une victoire 1-0 au Parc des Princes des Bavarois ne suffirait pas pour les qualifier. Paris devra faire bloc pour résister aux assauts des coéquipiers de Benjamin Pavard, confirme l'ancien joueur du PSG, Jimmy Algerino.
C'est vrai que quand une équipe court et ensemble, il y a de plus grandes chances de faire de bons résultats. Et on sait que Mbappé et Neymar pourront marquer un but au moins au Parc.
Les deux fantastiques sont d'ailleurs en forme. Mbappé, auteur d'un doublé en Bavière, a encore marqué le week-end dernier en Ligue 1. Quant à Neymar, qui a réussi 2 passes décisives sur la pelouse du Bayern, la star a pu se reposer ce week-end et affiche, comme l'ensemble du groupe parisien, beaucoup de sérénité.
Cyril de la Morinerie, soirée spéciale dès 20h ce soir sur Europe 1. Le match en intégralité, bien sûr, PSG-Bayern à 21h.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
8h15, dans quelques toutes petites secondes, Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Guillaume Pelletier, vice-président délégué des Républicains, député du Loir-et-Cher. A tout de suite.
Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h17 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le député du Loir-et-Cher, Guillaume Pelletier, vice-président délégué des Républicains.
Bienvenue à vous et bonjour Guillaume Pelletier.
Bonjour.
L'inquiétude monte autour des variants brésiliens. Le gouvernement français affirme avoir pris toutes les mesures pour diminuer drastiquement le nombre de voyageurs en provenance du Brésil. C'est suffisant?
Quelle réussite. 1000 voyageurs en provenance du Brésil chaque jour, selon les mots du ministre. Cela résume bien, de manière surréaliste, l'impuissance publique française. J'entendais le ministre dire que le droit ne permettait pas de suspendre. Ah bon ? Eh bien, le rôle de la politique, justement, c'est de transformer le droit lorsqu'il ne répond pas à la nécessaire protection des Français, ou plus simplement d'exiger, par exemple, la mise en quarantaine obligatoire de tous ceux qui proviennent du Brésil. Le variant brésilien, selon toutes les analyses, semble beaucoup plus dangereux que les autres, et donc il est indispensable que le gouvernement français prenne ses responsabilités.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas plutôt une décision européenne ? Vous dites impuissance du gouvernement français, est-ce que ce n'est pas une décision européenne qu'il faudrait pour suspendre justement ces vols ? Ce serait plus logique.
C'est tout le problème de des politiques français qui se réfugient ou derrière la bureaucratie, ou derrière la haute fonction publique, ou derrière un droit qui n'est pas adapté, ou derrière la sacro-sainte Commission européenne. On en a vu le résultat sur la question des vaccins, et on voit ce matin, 6 semaines après la promesse du président de la République que tout irait mieux, alors que tout va mal, la différence entre la France et le Royaume-Uni, par exemple.
Oui, mais pas par rapport au reste du monde, hélas.
D'accord, la France, on peut toujours essayer de se consoler en se comparant avec ceux qui sont les moins bons. Moi, je souhaite depuis toujours que la France renoue avec la grandeur et soit l'un des premiers pays du monde dans tous les domaines. Et quand je vois la réussite britannique, eh bien je dis que la classe politique française, ceux qui nous gouvernent et nous dirigent, n'ont pas été à la hauteur.
Alors, tout autre sujet, Guillaume Pelletier, la polémique se poursuit autour de la décision de justice qui contraint le maire d'Albertville à accorder un permis de construire d'une école à l'association Miligorus. Vous, aux responsabilités, qu'auriez-vous fait pour empêcher cela ?
Tout simplement, et je le demande depuis le mois de janvier. Vous savez qu'au mois de janvier, le président de la République a décidé la mise en place d'une charte de l'islam de France. 3 fédérations ont refusé depuis le mois de janvier de signer cette charte, dont la fédération que vous venez de citer. Eh bien, je demande l'exclusion de cette fédération des entités officielles de l'islam de France, et je demande sa dissolution. À partir du moment où une association qui prône l'islam politique, ce qui veut dire le refus de la liberté de culte, de conscience, de le droit de changer de religion, l'égalité entre les hommes et les femmes, cette association n'a plus le droit de citer notre pays.
C'est de la politique, la dissolution est un acte judiciaire, de justice, ça ne s'impose pas comme ça.
Ah mais par la loi, heureusement. Vous savez, je suis législateur, quoique, et je le regrette, député d'opposition. J'espère que cela changera dans un an. Mais la loi permet, bien sûr, puis avec des décrets, de dissoudre des associations qui ne respectent pas le droit français.
Là, c'est la justice qui ordonne au maire, c'est cette même justice qui ordonne au maire de construire finalement cette école.
C'est la raison pour laquelle, puisque la politique aujourd'hui, et je le regrette, est soumise à un droit qui est imparfait, il faut changer ce droit. Et donc, je demande au président de la République de prendre ses responsabilités et d'annoncer dans les prochaines heures l'exclusion des 3 fédérations des instances représentatives de l'islam de France et de dissoudre immédiatement ces associations qui ne respectent en rien les valeurs qui fondent la France.
Est-ce que l'exécutif n'a pas pris ses responsabilités en introduisant en urgence cet amendement dans la loi contre le séparatisme, un amendement visant à lutter contre les ingérences étrangères par l'intermédiaire d'ouverture d'écoles hors contrat ? C'est un pas important ?
C'est toujours ça, mais enfin, c'est très bien, c'est un amendement d'opportunité. Mais là encore, on réagit et on subit plutôt que d'agir. Le grand enjeu qui vient, posons quand même cette vraie question, c'est la question de la disparition de notre patrie et de nos valeurs, ou la soumission à la tyrannie des minorités.
J'ai l'impression, pardonnez-moi, mais j'ai reçu il y a quelques jours Philippe de Villiers, j'ai l'impression que de l'avoir en face de moi.
Ah, nous avons...
Vous dites la même chose.
Oui,
je me sens assez proche
de Philippe de Villiers sur le constat qu'il pose sur la société française, bien évidemment, et je l'assume pleinement. Vous savez, dans un an, vont se dérouler les élections présidentielles. Mm-hmm. C'est sans doute pour la première fois de notre histoire récente une élection qui ne sera pas simplement électorale ou politique, qui va poser un enjeu de civilisation. Pourquoi ? Parce que nous assistons depuis trop longtemps, nous Français, à une alliance objective entre d'un côté la tyrannie des minorités et de l'autre la lâcheté de nos élites au nom de la haine de la culture française et occidentale. Le lundi, ce sont les islamo-gauchistes. Le mardi, les indigénistes. Le mercredi, les racialistes. Le jeudi, les antispécistes. Le vendredi, les voyous de certains quartiers. Ça suffit. Nous, Français, nous ne supportons plus cette pensée unique et ce politiquement correct.
Mais qu'est-ce que vous faites concrètement ? Par exemple, monsieur le député, vous allez me dire que c'est insuffisant, mais quand il y a eu le projet de loi séparatisme, pourquoi vous n'avez pas voté pour, même si c'est insuffisant ? Pourquoi ne pas y aller ?
Mais parce que...
C'est ça qu'on n'en comprend pas.
C'est la grande différence. Regardez ce qui vient de se passer au Sénat. Le Sénat, courageusement, a pu faire voter un certain nombre d'amendements. Ce que la majorité à l'Assemblée nationale récuse systématiquement. Moi, je ne vote pas un texte qui fait semblant d'agir, qui enfume les Français. Je vais vous dire sur cette question essentielle de l'identité ce qu'il nous faut faire. À quand allons-nous intégrer la valeur de laïcité à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, laïcité, pour lui conférer une valeur constitutionnelle? Quand est-ce que nous allons enfin dissoudre les associations dont je parlais à l'instant? Quand est-ce que nous aurons l'audace de reconnaître 2000 ans d'histoire judéo-chrétienne?
Certains comités ont été dissous, le CCIF notamment. Est-ce que vous ne reconnaissez pas à Gérald Darmanin une fermeté? Il l'a dit même dans ce studio il y a quelques jours, les ennemis de la République ne doivent plus rester en France. Vous doutez de sa détermination?
J'attends des actes. Moi, le blabla en politique, j'en ai ras-le-bol. Je veux des résultats. Quand on est aux responsabilités, quand j'ai été maire, on me jugeait sur les résultats et non pas sur mes effets d'annonce. Quand j'étais président de communauté de communes, on me jugeait sur mes résultats et non pas sur des effets d'annonce. Eh bien, quand on est ministre, quand on est président de la République, on se doit d'être jugé sur des résultats et des actes. Je vais vous donner quelques exemples. En France, quand vous êtes patriote, quand vous défendez l'amour de la France, alors aujourd'hui, vous êtes considéré comme raciste. Si vous aimez l'altérité entre les hommes et les femmes, vous êtes considéré comme machiste. Si vous revendiquez le droit pour chaque enfant d'avoir un père et une mère, vous êtes considéré comme homophobe. Si vous défendez la filière nucléaire, le rêve de tous les enfants du monde de prendre l'avion, l'amour de nos territoires ruraux,
mais attendez,
comme
à vous
moi
entendre,
qui vis en Sologne,
vous êtes,
attendez, vous êtes coupable d'écocide.
Emmanuel Macron ne défend pas aujourd'hui la patrie attention quand on utilise ce mot, mais ne défend pas aujourd'hui la France telle que vous la décrivez?
On peut prendre tous les jours des exemples. Vous avez vu ce qui s'est passé?
Répondez-moi à l'action. Est-ce qu'il défend aujourd'hui la France qu'elle incarne et cet enjeu de civilisation?
Il se défend lui-même et il défend la France dans un monde mondialisé. Ça n'est pas ma conception, moi, du patriotisme. Encore un exemple, mais il y en a tant. Regardez ce qui s'est passé récemment en Turquie, entre la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen.
Qu'est-ce que vous y avez vu comme signe?
Tout le monde parle du protocole. Nouvel enfumage. Qu'est-ce qui est en train de se passer? La Turquie rêve d'un nouvel empire ottoman et d'humilier les nations occidentales. Et nous continuons à négocier pour un processus d'adhésion avec la Turquie.
Oui, mais que faites-vous? Là encore, vous êtes dans la dénonciation. Alors qu'est-ce que vous faites, à part les coups de menton?
Sonia Mabrouk, depuis le début, si vous m'écoutez bien, à chaque dénonciation, il y a une solution. Je vais vous donner les solutions sur la Turquie. Je demande la suspension immédiate des discussions d'adhésion.
Oh.
La suspension
Monsieur
de l'union
Pelletier,
douanière.
Elles sont gelées depuis longtemps, ces discussions.
Non, c'est pas vrai, elles continuent.
Wow.
La suspension de l'attribution des milliards d'euros sur la gestion des migrants ou sur les négociations
commerciales. Sur l'adhésion de la Turquie, plus personne n'y croit. Ni eux, ni nous.
J'attends du président de la République qu'il annonce dans les prochaines heures, là encore, la suspension et l'arrêt définitif des négociations d'adhésion, de l'union commerciale. Que fait-on sur la question des visas? La France fait preuve d'une incroyable naïveté.
Mais à vous entendre, la droite, pour vous, Guillaume Pelletier, ça ne doit pas être un aménagement du macronisme. Alors la question, par exemple, quand vous écoutez Xavier Bertrand, est-ce qu'il a plié le match des candidatures à droite, selon vous?
Je considère en tout cas que Xavier Bertrand aujourd'hui est le mieux placé. Il est une droite très étanche à Emmanuel Macron, c'est très important pour moi. Il est soutenu par 73% des sympathisants Les Républicains dans le dernier sondage. Il apparaît aujourd'hui comme le troisième homme et les valeurs qu'il porte d'identité, d'autorité, de récompense du travail me plaisent particulièrement.
Si c'est pas un soutien, ça, je ne sais pas ce que c'est.
Mais au-delà des candidats,
non, je veux quand même
sortons
vous amener...
un peu
non,
uniquement
attendez,
de la
c'est important.
Politique politicienne.
Est-ce qu'avec lui, vous pouvez échapper à la primaire? Parce que c'est votre volonté à vous.
À moi, la primaire, je vais être très franc, parce que je ne fais pas de langue de bois, je m'en contrefiche comme de ma première chemise.
Bon, alors,
franchement, la primaire pour désigner le perdant de l'élection présidentielle,
alors,
très
j'imagine ce matin, ils sont tombés de leur chaise. Bruno Retailleau qui vous écoute, peut-être David Lisnard, Philippe Juvin, sans oublier Laurent Wauquiez qui n'a pas dit son dernier mot. Ils disent, mais pourquoi les sympathisants de Les Républicains n'auraient pas le droit de voter et d'avoir le choix?
Mais on veut continuer l'entre-soi ou on veut gagner l'élection présidentielle et mettre fin au quinquennat d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'on veut? Tous ceux que vous avez cités, et je les respecte, feront partie de l'équipe de France. On aura besoin de tous les talents et de tout le monde.
Oui, mais enfin, il y en a qui ne veulent pas rester sur le banc, des remplaçants.
Le grand sujet n'est pas là. Le grand sujet, face à la révolution de la repentance, de la haine de soi. Moi, j'appelle ce matin à la contre-révolution, du patriotisme, de la fierté, de la grandeur. J'appelle les Français à se remettre debout parce que l'élection présidentielle va être un rendez-vous presque sacré et mystique pour rétablir, pour rétablir le patriotisme, la fierté de notre histoire, la volonté de ne plus négocier des valeurs fondamentales. Tel est l'enjeu de l'élection présidentielle.
Vous avez l'air très déterminé, mais pourquoi vous avez si peur d'Edouard Philippe?
Ah non, je parle jamais d'Édouard Philippe, sauf quand on pose la question.
Vous lui avez parlé, vous dites de lui qu'il est le fils caché de François Hollande et d'Emmanuel Macron, oui. Et vous ajoutez, il n'est pas de droite. Pourquoi c'est vous qui distribuez les certificats d'appartenance politique ?
Ah non, ce sont les Français, quand on a augmenté, quand on a comme bilan 1000 milliards d'euros d'impôts, 2500 milliards d'euros de dettes, 2 millions de nouveaux étrangers entrés sur le territoire national, un échec complet sur les questions de bureaucratie, l'explosion de la délinquance, alors on n'est pas de droite. Que Monsieur Philippe assume pleinement le bilan qui est le sien, c'est-à-dire celui de l'échec complet du macronisme. Nous, la droite populaire et la droite forte, nous voulons tourner la page du macronisme, échapper au duel Macron-Le Pen et offrir une espérance au peuple français. Et cette espérance, c'est celle du patriotisme.
En un mot, on a appris probablement que les régionales seraient décalées d'une semaine, par exemple pour le second tour qui n'aurait pas lieu le 20 mais le 27 juin. C'est une bonne nouvelle, le temps d'une campagne aussi, la démocratie qui se déconfine ?
Oui, c'est important et je suis heureux que là où le président de la République et son Premier ministre n'avaient pas tranché, ce sont les maires de l'immense majorité silencieuse qui, eux, ont tranché. On aura donc une élection au mois de juin.
Merci Guillaume Pelletier d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant, Marion Calais pour l'info et la météo de Laurent Cabrol. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Et c'est un nouveau drame qui embrase la ville américaine de Minneapolis où se tient en ce moment le procès du meurtre de George Floyd. Dimanche, un homme noir a été abattu lors d'un contrôle de police. Alexis Guillot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les forces de l'ordre ont évoqué hier une mort accidentelle, s'appuyant pour ça sur les images de l'enregistrement de la caméra piéton de la policière qui a tiré.
Oui, et sur ces images, tout se joue en moins d'une minute. On y voit Dante Wright sortir de sa voiture, interpellé car il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Il résiste au moment où un premier policier essaie de le menotter. Il parvient même à remonter dans son véhicule. C'est là que la policière s'approche, sort son arme. Elle hurle qu'elle va utiliser son taser, la balle part. Merde, je lui ai tiré dessus, s'écrie-t-elle, comme si elle réalisait qu'elle venait d'utiliser son arme à feu et non son taser. Dante Wright meurt quelques minutes plus tard et la policière a, elle, été placée en congé le temps de l'enquête.
Et après ces explications, Alexis, les tensions restent vives et des mesures exceptionnelles ont été prises.
Oui, effectivement, des manifestants se sont à nouveau rassemblés hier soir aux abords des locaux de la police de Brooklyn Center, malgré le couvre-feu décrété jusqu'à ce mardi matin. Foule progressivement dispersée au cours de la soirée grâce à un vaste dispositif policier. D'ailleurs, les mesures de sécurité ont été renforcées au cours de la journée. Cours à distance pour les écoliers, commerces barricadés, rencontres sportives reportées et la garde nationale déployée à quelques intersections majeures. La tension et l'émotion dans cet état du Minnesota alors que le procès de Derek Chauvin, le policier accusé du meurtre de George Floyd, se tient depuis plusieurs semaines maintenant à une dizaine de kilomètres tout juste du lieu où Dante Wright a été tué.
Alexis Guillot, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'est une annonce qui fait déjà grand bruit. Le Japon va rejeter en mer des eaux issues de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, des eaux qui seront traitées, assure le Premier ministre japonais. Le voisin chinois dénonce une décision irresponsable. Une semaine de plus pour faire campagne, une semaine de plus pour la vaccination et des élections régionales et départementales qui seront finalement décalées d'une petite semaine. Elles étaient prévues les 13 et 20 juin prochains. Elles se dérouleront en fait les 20 et 27 juin prochains. C'est le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui a fait savoir que cette annonce devrait être faite dans la journée par Jean Castex, qui doit s'exprimer aujourd'hui devant les députés. L'examen du projet de loi climat à l'Assemblée et le vote à l'unanimité hier soir de l'interdiction progressive d'ici 2028 de louer des passoires thermiques. Interdiction en trompe-l'œil pour l'opposition qui dénonce le recours nécessaire du locataire de ces logements mal isolés devant la justice. De nouvelles gelées cette nuit dans l'Hexagone et la crainte de nouveaux dégâts sur des cultures déjà ravagées par le froid nocturne la semaine dernière, du jamais vu depuis 1938 selon les vignerons de l'appellation Côte Rôti dans les Côtes-du-Rhône. Épisode sans comparaison possible ces dernières années selon le ministre de l'Agriculture Julien de Normandie.
On a eu un événement climatique dramatique, probablement la plus grande catastrophe agronomique de ce début du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on a eu un effet qui a été un effet de forte chaleur, donc la plante s'est développée, le bourgeon est devenu fleur, est devenu petit fruit, et dans une nuit, les températures ont chuté drastiquement et c'est venu cramer l'ensemble des dispositifs. Et donc ça, ce sont des pertes économiques, d'abord pour les producteurs de fruits à partir de juin-juillet, qui étaient des ventes qui n'auront donc pas lieu. Ensuite, pour les producteurs de vin, un peu plus tard, mais également pour la grande culture.
Le ministre de l'Agriculture invité hier soir de LCP Public Sénat. Et puis, confirmé, voilà le maître mot pour le PSG ce soir face au Bayern Munich en quart de finale. Retour de la Ligue des Champions. Les Parisiens, on le rappelle, l'avaient emporté 3-2 à l'aller sur la pelouse des Bavarois. Ce soir, ce sera donc au Parc des Princes. Match à suivre en direct sur Europe 1, émission spéciale dès 20h.
Merci beaucoup Marion Calais. 8h34 sur Europe 1, c'est Laurent Cabrol qui est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Et tout se passe comme si en météo, eh bien, si elle est plaintive notre météo. Le soleil, ah ben, bof, il enrichit, il assèche le sol en ce moment. Les nuits claires, rebof, elles provoquent des gelées. Et maintenant, les pollens qui pourraient à eux seuls transporter quelques Covid. C'est une étude qui a été réalisée par les Norvégiens et les Allemands et qui démontre que peut-être les pollens seraient, disons, aussi responsables de la circulation du virus. Vous voyez que la météo est au centre de toutes nos préoccupations et de notre vie en ce moment. Et les températures du jour, pour terminer, entre 10 et 18 degrés. Ça, c'est un petit réconfort. Ces températures dans la journée grimpent joyeusement.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. 8h35 sur Europe 1. Dans un instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Je vais vous parler du cannabis et plus particulièrement de l'augmentation inquiétante du taux de THC dans les joints et de ses conséquences sur la santé.
Notre planète ensuite avec Fanny Agostini et Nicolas Canteloup, la revue de presse dans 10 minutes. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe. Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Ce matin, vous avez souhaité, Jimmy, nous parler des risques du cannabis sur notre santé et plus particulièrement sur notre cerveau.
Oui, cannabis, on le sait, il existe depuis très longtemps. Et si on fait un peu d'histoire, ça a même fait des ravages dans l'armée de Napoléon en 1800 en Égypte, car les soldats qui ont découvert le haschich avaient tout d'un coup une perte de la motivation et ne voulaient plus se battre. Le général Bonaparte fera passer une interdiction du cannabis, c'est la première loi anti-drogue. On le sait, le cannabis va être composé de THC, qui va être responsable des effets psychogènes, car il va se fixer sur le récepteur dans le cerveau et va activer un circuit qui est normalement éteint, celui de la récompense. Alors vous allez me dire, c'est une bonne chose, c'est vrai que lorsqu'on fume un joint, tout d'un coup on va avoir l'effet euphorique, on va rire. Sauf que le problème, plus vous fumez, plus vous allez avoir du THC et moins les récepteurs dans le cerveau vont être sensibles. Et plus vous allez avoir besoin d'une grande quantité de joint pour avoir exactement le même effet, c'est ce qu'on appelle la tolérance.
Et ce qui inquiète les autorités sanitaires, hein, ce sont justement ces taux de THC qui ne font que grimper ces dernières années.
Exactement, on est passé d'un THC aux alentours de 6% dans les années 2000 à 30% en 2019, jusqu'à la création de molécules de synthèse récemment avec une forme de cannabis puissance 100. Alors pour bien comprendre, dans le cerveau, vous avez des neurones. Ces neurones normalement communiquent par des signaux électriques et chimiques. Et le problème du THC, c'est que ça va ralentir la connexion entre les neurones. Et le premier effet que vous allez recevoir, c'est une perte de la motivation, en particulier sur le cerveau des adolescents dont tous les circuits sont en pleine construction. Alors, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait des récepteurs dans le cerveau et donc les effets vont être beaucoup plus graves que cette perte de motivation. Eh bien, lorsque vous fumez du cannabis, vous allez avoir sur certains vaisseaux sanguins une vasodilatation. Vous allez avoir les pupilles dilatées et puis surtout l'hyperémie conjonctivale. Ça veut dire quoi ? Vous allez avoir les yeux rouges. Mais à l'inverse, vous allez avoir un autre phénomène beaucoup plus inquiétant. Plus il y a de THC, plus vous risquez une vasoconstriction des vaisseaux. Ça va être responsable de quoi ? D'un accident vasculaire cérébral. Car oui, fumer du cannabis vous expose à l'AVC, mais on sait qu'en plus de ça, c'est un facteur favorisant à la survenue d'une schizophrénie. Donc c'est pas simplement quelque chose de récréatif de fumer du cannabis. Donc l'idée, c'est de pas culpabiliser, c'est d'informer les gens, et en particulier les plus jeunes, et d'instaurer un dialogue pour leur exposer les effets secondaires du cannabis et leur donner un dernier élément, c'est qu'on le sait, c'est que le cannabis va aussi se fixer sur le récepteur dans le testicule. Le cannabis nuit aussi à la fertilité. Donc je pense que si on est un peu pédagogique, eh bien il est possible de faire passer ce message en toute simplicité auprès des plus jeunes.
Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, et dans ce rendez-vous aujourd'hui, les 4 peurs qui nous empêchent de vivre.
Exactement, vous allez voir une émission passionnante, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, 15h-16h, c'est sans rendez-vous, Jimmy Mohamed et Mélanie Gomez sur Europe 1. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Parlons ce matin des alternatives au plastique. Oui, 4 entreprises françaises se sont lancées dans la production d'emballages 100% naturels pour remplacer les films, vous savez, en cellophane et sur en aluminium.
Oui, du tissu imbibé de cire d'abeille plutôt que des rouleaux de film plastique ou d'aluminium. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en utiliser. En anglais, cette technique s'appelle le bivrap, bi comme abeille bien sûr. Ça fait 2 ans que ce produit prend de l'ampleur à l'étranger et il gagne enfin du terrain en France grâce à ses arguments béton. Ingrédients naturels, produits made in France et réutilisation pendant 1 an. Car on peut effectivement laver cette sorte de film tissu à l'eau froide et même s'il perd sa capacité adhésive après quelques usages, un élastique suffit à le tenir en place. Et une fois qu'on l'a vraiment bien usé, eh bien, on peut le laisser se biodégrader au compost.
Ah oui, au compost. Alors, vous nous dites que c'est une invention qui va pouvoir venir soulager la nature ?
Ben oui, parce que lors du ramassage de déchets des plages organisées en 2019 par une centaine de pays, les plastiques alimentaires, sachez-le, ont devancé les mégots de cigarettes. Ils sont parmi les premiers déchets qui échappent systématiquement au recyclage et qui sont destinés à l'incinérateur ou à l'enfouissement. Mais qu'ils soient consumés par les flammes ou dégradés par les sols, les plastiques libèrent toujours des microparticules qui finissent dans l'air, dans l'eau ou dans la terre. Ils terminent irrémédiablement dans notre corps car ils rentrent dans ce que l'on appelle la chaîne trophique, qui comprenait la chaîne alimentaire. D'autres animaux, et notamment les poissons, vont les ingérer, des poissons que nous mangeons à notre tour.
Est-ce qu'on peut espérer une poussée vers la sortie des autres produits à usage unique dans la cuisine ?
Alors, faut bien dire la vérité, malgré l'urgence écologique, les plastiques à usage unique, on le vend en poupe et la pandémie a fait se multiplier les recours à la protection par le plastique, notamment au niveau des emballages. Assez absurde puisqu'on sait que le plastique est l'une des surfaces sur laquelle le virus survit le plus longtemps. On a donc hâte que les acteurs qui travaillent sur ce type de solution naturelle arrivent à pérenniser des alternatives aux emballages plastiques en supprimant d'une pierre deux coups leur forte empreinte carbone.
Et puis c'est vrai aussi, Fanny Agostini, que si en ce moment c'est difficile de contester le plastique qu'on trouve dans les masques ou ceux par exemple, tiens, je pensais aux autotests hier où il y a encore plein de petits objets en plastique, eh bien au moins si on peut faire un effort dans la cuisine, on compensera dans un premier temps, Fanny Agostini, notre planète.
Ça serait bien.
Merci beaucoup, c'est tous les matins sur Europe 1, 8h42, dans quelques toutes petites secondes. Nicolas Canteloup arrive, Julie est déjà là.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les infos du jour. Il rit déjà.
Oui, excusez-moi, je lis dans ce... Parce que, vous savez, je vis les chroniques de nos amis journalistes et c'est vrai que j'ai essayé le gaz hilarant, le protoxyde d'azote ce matin. Ensuite, j'ai enchaîné avec Jimmy Mohamed qui m'a fait essayer le cannabis et toutes les vertus ou les effets délétères du cannabis. Bon, allez, regarde, Europe 1, bienvenue sur RTL 2. Europe 1.
S'il vous plaît, allons.
Regarde le monde changé. Regarde le monde trinqué aussi, puisqu'en Angleterre, les restaurants ont pu rouvrir les terrasses. Ah, mais des fois, je pense aussi à trinquer. Oui, on a tous vu ces... Il manquait plus que ça. On a tous vu ces images de ces Anglais en train de boire des pintes bras dessus, bras dessous, avec des variants ou je ne sais qui. Ça fait plaisir à voir. Ça leur fera de bons souvenirs lors du prochain confinement aux Anglais. Allez, l'autre info, c'est le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, qui ne jouera pas ce soir face au Bayern de Munich. Une bonne nouvelle pour le Bayern de Munich, une mauvaise nouvelle pour les cambrioleurs. Ah. Ouais, je vous laisse le temps de réfléchir, essayer une info à deux bandes. Voilà. Allez, l'autre info, c'est bien sûr le début du Ramadan. On souhaite du coup un très bon Ramadan à tous les musulmans de France qui nous écoutent. Ramadan Moubarak, et c'est l'expression. Et un très bon, tu peux nous ramener des cornes de gazelle au bureau, à leurs collègues de boulot. Voilà. Oui, c'est ce qui est bien. On va vous le dire, c'est ce qui est bien avec le Ramadan. On a quelques amis musulmans à la rédaction d'Europe 1, c'est qu'au final, tout le monde en profite. Et comme je ne vais pas jeûner le midi, mais que je vais manger des pâtisseries orientales, je vais prendre 8 kilos.
Oh, bon, voilà. Mathieu.
Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle.
C'est une nouvelle.
C'est pas très nouveau. Je fais yo-yo. Je vais tout vous dire. Il faudrait qu'on fasse un spécial régime avec Jimmy Mohamed.
Bon. Les pubs ont donc rouvert en Angleterre, un début de retour à la vie normale. Et ça, on a vu les images, ça plaît. Hein.
Non, bon, excusez-moi, ma chère Julie, mais j'ai une question. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Yes, Brian is in the kitchen. Steve is not in the kitchen.
Oh là là là, qu'est-ce qu'il nous fait?
Matthew is in the frigo. Where is my umbrella? My umbrella is big. It is a big blue umbrella.
Oh là 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 là.
Pourquoi on cause de parapluie dans ce bouquin à la con là? Attends, je cherche. J'ai eu le chapitre sur les peintes de Guinness.
Non mais Laurent, attendez. Si vous voulez, Laurent
Cabrol, je m'en fous.
Si vous voulez, non Laurent, si vous voulez intervenir, que ce soit pour de la météo au moins, franchement.
Oui, non, je vais tester mes premiers rudiments d'anglais.
Ouais, dedans, ça promet.
Oui, je veux voir Julie. Écoute, je voulais voir si j'avais le niveau pour aller à Londres tout à l'heure. Hein. Alors attends, the pub is open. The pub is not closed.
Ah non.
The Guinness cost £2.
Ah, £2.
Ça y est, ça y est. Enfin, ah, il y a un truc intéressant. How much is the Beaujolais?
Non, écoutez, Laurent, Laurent.
Ne me regarde pas, comme ça, je vais la donner, la météo.
Allons-y, la météo.
Il faut toujours bosser dans cette boîte-là. Alors, le temps, la météo, attendez, oui, parce qu'en tout, j'ai le temps, je termine notice d'avion aussi, je ne sais plus où j'en suis.
Alors, le temps, écoutez. Non, on y va, là, on enchaîne.
Alors,
allez.
Le temps, oui, mais j'ai beaucoup de passion, vous savez. Alors, écoutez, on prévoit des précipitations toute la semaine, ouais. Hein, Manchester, Liverpool, Birmingham aussi, Bristol, si vous habitez du côté de Bristol,
enfin,
vous voyez des crues, des fortes crues, des crues de bière, avec possibilité de tsunami de whisky sur les régions. Alors, moi, je peux voir sur les régions d'Edimbourg et de Glasgow. Hein, Londres, météo British, enfin, c'est le pendant de Météo France, météo British, qui nous a prévenu. Hein, il a placé la ville en vigilance vomi, du côté de Londres. Écoutez, vous avez voulu la météo, vous avez la météo. On redoute, oui. Ça va bien avec les biscottes Pelletier. Allez. On redoute la formation de rivières provoquées par des Anglais bourrés qui dégobillent vers 3-4 heures du matin.
Oh là là.
Je peux voir ça vers 3-4 heures du matin. Attention, vigilance. The British Argona drink a lot. Hein. British. Brian is not in the kitchen. Brian is in the caniveau.
Voilà. Non, écoutez, merci Laurent. Ça ira comme ça. Hein. Merci.
You are welcome, Lady July. Go on, Matthew.
Lady
go on,
July. Oh, lady, yeah. Thank you, Laurent
Matthew. Sir Matthew.
C'est
un lord.
Gérard Larcher, le président du Sénat, a annoncé qu'il s'opposait à un éventuel report des élections régionales. Il saisira le Conseil constitutionnel. Alain Juppé, vous siégez, vous, au Conseil constitutionnel?
Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard. Écoutez, ici au Conseil constitutionnel, on a accueilli la nouvelle avec, je dois vous dire, stupéfaction. Apparemment, mais écoutez, c'est très nouveau, quelqu'un apparemment veut nous demander quelque chose. Semblerait que peut-être, éventuellement, on serve donc, j'en déduis, à quelque chose. Enfin, pas tout de suite, mais dans les semaines à venir, je dois vous dire que ça fait tout de même bizarre, je vous concède.
Oui, mais vous comprenez la position de Gérard Larcher.
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'en ces temps troublés, à l'heure où le moral des Français est aussi bas, je comprends qu'on ne veuille pas les priver d'une distraction tellement amusante, celle de voter aux élections régionales. Non, il faut qu'on laisse les Français kiffer, profiter de la life, oui. S'éclater dans un isoloir avec des bulletins Valérie Pécresse. On peut se la donner grave en mettant un papier Laurent Wauquiez dans une enveloppe, vous
allez,
savez.
Bon. Donc au Conseil constitutionnel, ce serait plutôt, vous seriez plutôt pour le maintien des régionales, c'est ça?
Écoutez, nous, vous nous connaissez, on est des déglingos. On s'éclate à superviser, pardonnez-moi, les élections cantonales, on se fait plaisir devant les législatives partielles de la 4e circonscription de Picardie. Il nous en faut pas beaucoup, vous savez, on kiffe notre race en départageant les litiges des scrutins sénatoriaux. Alors qu'on laisse les Français profiter de la vie. Vous savez, elle est courte, on en a qu'une, Madame
Juppé.
Oui,
vous êtes un sage, hein, cher Alain Juppé. À bientôt.
Oui, tout à fait.
Michel Simès est avec nous maintenant. On va revenir sur les autotests qui arrivent en pharmacie.
Eh oui, ma chère Marina, l'autotest, bonjour à mon confrère Jimmy Mohamed, l'autotest est là, c'est donc officiel, ne comptez pas sur une réouverture des terrasses dans 15 jours, les contaminations vont repartir à la hausse, ce sera donc walou pour les terrasses.
Pardon, mais c'est censé être l'inverse, non? Plus les gens se testent, plus les contaminations baissent.
Tout à fait, Marina, mais est-ce que vous avez déjà fait un test PCR?
Oui.
Vous avez déjà ressenti ce coton-tige, ma chère Marina, qu'on vous enfonce, ce coton-tige d'un mètre dans le zen, enfin le nez en verlan.
Le nez en verlan, voilà, oui, bien joué. Voilà. Oui.
L'envie de tuer la personne qui vient de vous le faire, vous l'avez vécu, ça, les larmes qui coulent,
oui,
le besoin d'appeler un numéro vert pour viol de cloison nasale. Et vous croyez vraiment, vraiment que les gens vont s'infliger ça à eux-mêmes?
Vous pensez que les gens ne vont pas acheter l'autotest alors?
Ah si, 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 ils vont l'acheter, mais ils vont enfoncer le coton-tige à peine d'un millimètre dans la narine et dire « C'est bon, j'ai rien !»
Ça peut
et
arriver,
ainsi,
ouais.
Donc, contaminer 12 personnes derrière. Oui. Donc, si vous ne me croyez pas, eh bien, pensez à comment les gens font leur auto Alcotest.
Ah, l'Alcotest demandait à Laurent.
Ah ben oui, mais s'il n'arrive pas à rentrer...
La balance.
Tout se finit par se savoir à la rédaction. S'il arrive à rentrer, l'autotest, l'auto-alcotest, vous savez comment ça se passe, si le conducteur, s'il arrive à rentrer seulement la clé de bagnole dans le démarreur, il dit tout simplement « c'est bon, je peux conduire ».
Merci pour tous ces conseils, cher docteur. Hier a débuté le procès de policiers ripoux de la BAC Nord de Marseille. Ils sont accusés de vol aggravé en marge d'une intervention dans les quartiers nord. Jean-Claude Gaudin, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous connaissez plus que bien Marseille.
Non, mais écoutez, Madame Gilles, j'en ai plus qu'assez qu'on stigmatise sans arrêt les policiers de Marseille pour juste à peine deux ou trois brebis galeuses.
Non, non, ils sont 18, hein, 18 policiers inculpés.
Ah oui,
ouais,
18, donc 2 x 9, quoi, en fait.
C'est
oui,
ça.
Oui, 18 brebis galeuses, voilà. Oui, là, ça... Oui, ça commence à être un petit troupeau quand même. Oui, c'est. Vous me dites que c'est la BAC Nord,
oui,
vous dites.
Oui.
Ah ben ça, on a toujours eu des problèmes avec le Nord. On se comprend pas avec le Nord.
Alors des petits racketteurs et des dealers se plaignent d'avoir été malmenés et racketés par les forces de l'ordre. Ils se servaient sur les bénéfices des dealers.
Ils se servaient sur les bénéfices des dealers. Oui, comme en fait une espèce de comment dire de prélèvement à la source. Alors, c'est ça.
Mais c'est interdit.
Mais c'est interdit, c'est interdit en France, Madame Julie. Oui, ouvrez les yeux. Et Martin Lange, si vous pouvez vous redresser dans votre fauteuil, là, hein, s'il vous plaît. Hein, écoutez-moi de façon attentive. Plus je parle, plus il s'enfonce, plus il s'endort. Dormez, de où on est, là. Je me croirais à la mairie de Marseille avec tous mes secrétaires.
Bon, alors dites-nous, c'est interdit.
Donc,
en
je
France.
Vous disais
bon.
Que c'est interdit en France, mais à Marseille, non, on l'a toujours fait.
Ah bon.
C'était une façon, comment vous dire, pédagogique de la part des policiers marseillais. De montrer, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Voilà.
Oui,
voilà. Mais... Donc, écoutez, ne me regardez pas comme ça, je n'ai que ça comme système de défense. Mmh. Ah, ben écoutez, je suis ancien maire, hein, je ne suis pas ancien avocat.
Eh bien, bonne journée quand même. Merci, monsieur Godin. Allez, on va dire un mot de tennis avec le tournoi de Monte-Carlo qui a débuté. On va en parler avec Nelson Monfort. Bonjour, Nelson.
Ouais, bonjour, ma chère Julie, cher Mathieu, cher Martin.
Malheureusement, Benoît Paire a perdu au premier tour, hein, voilà.
Oui, effectivement, ma chère Julie, cher Laurent, quel bonheur dans un monde où tout fout le camp, il faut bien le dire, un monde en perte de repères, qu'il est bon, je me rappelle d'avoir des bouées auxquelles s'accrocher. Benoît Paire a perdu donc au premier tour. Quelle chance, quel bonheur de retrouver ses repères, Covid ou pas, public dans les gradins ou pas, rien ne le perturbe, il garde son cap, notre Benoît.
Bon, on revient aussi sur cette phrase de Benoît Paire. J'en ai rien à branler de ce match, j'ai pris 12 000 balles pour être à l'hôtel tranquille. Ça serait pas un petit peu provoque, ça?
Oui, alors, ma chère, je vais traduire un petit peu. Oui, en général, je vous explique, Benoît Paire. Oui, en général, Benoît Paire en une petite heure. Ça fait donc 12 000 euros de l'heure.
C'est... Oh là là là.
Et c'est là que je vois que je me... Pardonnez-moi, mais je fais un peu d'introspection. C'est là que je vois que je me suis trompé de carrière, parce que perdre en moins d'une heure, c'est dans mes cordes. Passez-moi un short, une raquette, je vous le fais, j'enlève mon froc. Tiens, allez, on y va, allez, c'est parti, on y va.
Non, regardez votre pantalon, Nelson. Et dites-moi, Roland-Garros va donc être reculé d'une semaine, Nelson, hein, c'est ça?
Oui, donc cela va donner à nos joueurs français l'impression de rester une semaine de plus à Roland-Garros. C'est déjà 7 prix, hein, j'ai envie de dire.
Bravo Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse que tous les matins sur Europe 1. 8h56, il est déjà là, c'est Philippe Bandel.
Mais oui.
Il est déjà là parce que Culture Média va commencer. Bonjour Philippe.
Mais évidemment, bonjour. Il y a 2 ans, un incendie ravageait Notre-Dame de Paris. Ça fera 2 ans après-demain. Notre info média du jour s'intéresse à un documentaire inédit qui retrace les heures de lutte contre les femmes. Nous serons avec Jules Naudet, co-réalisateur et co-producteur de ce documentaire Notre-Dame de Paris. C'est lui qui avait co-réalisé avec son frère Gédéon le fameux doc sur le 11 septembre qui a fait le tour du monde, dans lequel on voit les avions qui s'écrasent dans les tours. Au sommaire également, à parler des programmes jeunesse de France Télévisions, à l'heure où les enfants sont en vacances, il y a l'UMNI, émission qui enseigne à distance, et une nouvelle émission, Zinzin, magazine culturel. On en parle avec leurs animateurs, Alex Good, et une nouvelle venue sur le service public, elle s'appelle Marie Palot. Et puis l'un des écrivains français les plus lus, c'est Laurent Gounel pour Intuitio, j'espère que je prononce bien. C'est un nouveau thriller fondé sur l'intuition, et c'est scientifique, et en même temps, ça fait très très peur.
Philippe Vandel, Culture Média, de 9h à 11h sur Europe 1 avec toute son équipe. Moi, je vais vous souhaiter une très belle journée. Un très bon match ce soir, hein, à l'écoute d'Europe 1, évidemment. Ah oui, une soirée spéciale en direct, en intégralité sur Europe 1, le PSG Bayern. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.